J'ai découvert l'autre et je me suis aperçu que l'autre, c'est sacré.
Les paysages de la montagne, la mer, dont la manière de parler, la manière de danser, en forme de musique.
Pour casser cette barrière qui est entre nous, pour pouvoir faire la route.
J'en rêve.
Montagne cosmopolite.
Ne toko e Moussa, ne be bo Mali la. Je m'appelle Moussa, je viens du Mali. Ma langue natale c'est du Bambara. Donc il y a plusieurs ethnies qui sont là, il y a plusieurs langues, mais le plus parlé c'est du Bambara.
Mm-hmm. Mm. Ouais, c'est majoritaire.
Ouais.
Et t'es né dans quelle région?
Je suis né à Bamako.
T'es né à Bamako?
Ouais.
Est-ce que tu peux décrire les paysages de ton enfance? Ou ton quartier?
De mon quartier, ouais. Je suis dans un quartier de Bamako, appelé Lafiabougou. C'est l'une des quartiers communes qui est là, commune 4. Donc, ouais, je suis né là-bas, grandir là-bas et puis... J'ai fait mes écoles aussi tout près de chez moi, à 5 minutes. Donc après, j'ai décidé de travailler dans l'art, la culture.
Et tu avais des frères et sœurs?
J'ai que des sœurs.
D'accord.
Donc j'ai 6 sœurs et je suis le seul garçon.
Et tu es placé où dans la fratrie?
Au milieu.
Au milieu.
Ouais. Ok. 3 petites sœurs et 3 grandes sœurs.
D'accord. Mm. Et toi, tu dis que tu as eu envie assez tôt de t'orienter vers un métier autour du spectacle?
Ouais. Parce que au Mali, il y a un truc aussi qui communique beaucoup, qui aide vachement les enfants, c'est des petites soirées qu'on fait les anniversaires. Qui est fait dans la rue. Donc si ça s'organise, il n'y a pas une invitation spéciale qui est là, donc on se fait sortir les haut-parleurs. Avant c'était le balafon en fait, ils mettaient ça dans la rue. Dès que les gens ils attendent le balafon, les tantans, tout le monde s'est regroupé. Donc l'ambiance ça commence comme ça, tout le monde, il y a des gens qui viennent danser. Des fois ça commence avec 5 garçons, 5 filles. Donc au fur et à mesure, ça devient que les femmes seulement qui dansent un peu. Mais des fois, les garçons, ils dansent aussi. Donc il y avait des concours qui sait bien danser. Voilà. Et puis après, il y avait des groupes qui se formaient aussi pour des danses. Moi, au début, j'ai commencé comme ça.
Tu étais danseur?
J'étais danseur, j'ai commencé à danser. Mais c'était danse dans la rue, au fait. C'est entre nous, il n'y avait pas de chorégraphie, des règles à respecter et tout. On dansait pour faire rire les gens, pour que l'ambiance soit jolie. Donc au final, il y a un oncle qui m'a vu dans ça. Il m'a dit, ben, moi je cherche des danseurs parce que lui il joue la guitare, il veut faire une clip. Donc il voulait qu'on danse dans son clip là. Donc quand je suis allé chez lui et tout, on a commencé à faire des répétitions, écouter ses morceaux et tout. Après, j'ai vu jouer de la guitare et tout, ça m'a impressionné.
T'avais quel âge à ce moment-là?
J'avais 17 ans à ce moment-là.
D'accord. Mm.
Donc, de fur et à mesure, je viens. Il m'a proposé de jouer du calebasse parce que lui, il cherchait quelqu'un pour jouer du calebasse. Donc, j'ai dit, je sais pas comment faire ça, mais si tu m'apprends. Donc, j'ai commencé à jouer, on a fait quelques années ensemble. Donc ça allait bien, je voulais toucher à tous les instruments, la guitare, la basse, du piano. Donc c'est là que je suis petit à petit rentré dans le milieu artistique.
D'accord. Mm. Et tu as continué à danser aussi?
Non, j'ai oublié la danse en ce moment parce qu'il y avait d'autres passions qui étaient là, de jouer la guitare et ainsi de suite. Donc j'ai oublié un peu la danse. Donc j'ai suivi le groupe, j'ai joué la calebasse, j'apprenais la guitare comme ça. Sans note quoi. Donc on attendait, on se disait, ouais, il faut, t'entends pas le son, il faut jouer le même son que moi. Donc on a appris comme ça à jouer la guitare.
À l'oreille.
À l'oreille.
C'est intéressant de voir que dans un pays où il y a une instabilité politique, des difficultés économiques, on valorise quand même la culture.
La culture, ouais. Du coup, il y a pas mal de personnes aussi qui se posent la question. Actuellement, le Mali est dans cette situation, mais il y a toujours des concerts qui se font, il y a toujours de l'ambiance qui est à Bamako, alors qu'à quelques heures, ou soit à 24 heures au nord du Mali, il y a tout le temps des morts, quoi. Donc, il y a pas mal de personnes qui n'arrivent pas à comprendre. Donc, il y a ces conflits aussi qui se posent actuellement, en fait, au Mali. Donc, il y a toujours l'ambiance, il y a malgré le Covid et tout. Donc, les artistes, ils ne veulent pas s'arrêter. Les directeurs du festival, ils veulent vraiment faire leur festival. Les musulmans, ils ne veulent pas arrêter leur prière parce qu'il y a Covid. Donc, c'est un peu compliqué.
Et comment ça s'est passé pour toi après, quand tu as voulu devenir professionnel
ouais.
Spectacle.
Du coup, quelques années après, mon histoire de guitare et tout, il y a un ami qui était Didier. Donc un jour, il m'a proposé de venir l'aider parce qu'il n'y avait personne pour l'aider. Donc j'ai dit, ok, je viens pour t'aider. Donc on a travaillé ensemble, je ne connaissais rien. Le son, donc il m'a aidé, on a branché des trucs. Après ça s'est bien passé, il m'a supplié de rester à côté de lui. Des fois s'il a besoin de moi, il m'appelle. Au début j'ai refusé parce que je voulais pas devenir Didier. Je ne savais pas qu'il y avait des ingénieurs, il y avait tout ça. Mais moi je voulais jouer la guitare.
Tu voulais pas devenir technicien quoi.
Voilà, donc à ce moment je connaissais pas qu'il y avait technicien. Moi je frappais tout le monde en tant que Didier. Donc je me dis, Didier, voilà, quelqu'un qui prend le micro pour, voilà. Bon, c'était un peu, dans ma tête, c'était pas bien vu. Personnellement, je me dis, bon, je ne voulais pas devenir quelqu'un comme ça, quoi. Parce que les DJ, ils prennent le micro aussi pour faire l'ambiance. C'est dans la rue.
D'accord.
Ils ont une console, les haut-parleurs, ils les posent dans la rue, ils balancent un morceau. Et puis il y a 6 ou 5 personnes qui viennent danser au milieu. Donc le DJ il prend le micro, il dit ouais, applaudissez pour les jeunes qui dansent bien et tout. Donc il coupe le son et puis après il les remet encore pour faire applaudir les gens, faire crier les gens. Donc,
D'accord.
Ouais.
Et donc, toi tu faisais quoi pour l'accompagner?
Ben moi je balançais le son à côté de lui. Donc lui il parlait. Moi je voulais pas parler parce que j'avais honte de parler, j'avais honte de tout ça. Donc on a commencé comme ça. Au final je me dis bon. Pourquoi pas devenir un ingénieur parce qu'au début je voulais jouer à tous les instruments différents. Je me dis ça va être l'occasion de voir plus d'instruments, d'être plus dans l'art. Parce que j'avais connu aussi une association dont j'ai bossé pendant 10 ans. Association culturelle Acte 7.
D'accord.
C'est à Bamako. Ils font du théâtre, plus du théâtre que de la musique. Donc le gars il m'a proposé de jouer et de venir parce que j'ai fait quelques années avec mon ami, connaître un peu plus. Donc là-bas, le gars il m'a dit « Ok, si tu viens rester chez moi, moi je cherche quelqu'un, je peux te former. En son, tu vas devenir un ingénieur, tu vas valoriser ce que tu as envie de faire en fait. » Donc j'ai dit « Ok, il n'y a pas de souci, je suis resté à côté de lui. » Il a amené des gens de l'Europe pour me former un peu en son. Des gens du Burkina, il m'a envoyé au Burkina, Guinée-Conakry, pour me former un peu en son. Donc je suis resté chez lui pendant 10 ans à faire le son et la lumière.
Et là-bas, au Mali, il y a des subventions pour la culture. Comment ça fonctionne l'économie de...
S'il y a des subventions qui sont là, la France aide et pas mal de pays aussi qui aident la culture malienne. Donc, par rapport à ça, ils aident les comédiens, les musiciens qui viennent tourner, faire leurs spectacles. On les défraie comme ça. Mm-hmm. Donc après les spectacles, il y a les cachets payants aussi. Il y a deux spectacles, c'est gratuit. Donc l'argent de subvention sert à arranger aussi certains côtés.
Mm-hmm. Mm. Pour que ce soit accessible à tout le monde.
C'est ça, c'est ça. Mmh. Surtout là où j'ai travaillé aussi à Acte 7, les subventions qui arrivent là-bas, lui, il prenait les artistes. Ils organisaient des trucs à Bamako, mais il y a pas mal d'artistes qui lui prend pour aller aussi dans les brousses. Là où il y a les gens qui regardent les artistes à la télé. Donc il donne chance à eux aussi de vraiment voir les artistes à l'œil nu qu'ils aimeraient voir. On a fait cette tournée-là, on a fait 2 ans sur ça. Donc mmh. Chaque mois, il y a des artistes qui partent aussi.
Et dans tout ton parcours professionnel qui a l'air de s'être bien enchaîné, là, tu imaginais partir ou pas à ce moment-là?
Du Mali?
Oui.
Non. Au début, non. Quand j'ai rencontré Clément, c'est tout. Donc l'idée, c'était pour venir visiter la France, comme elle vient de la France. Donc voilà, des fois, c'est de faire la route, l'un et l'autre, de son côté. Donc on a essayé une fois, deux fois, ça n'a pas marché. Donc il y a eu des promesses, donc elle voulait me faire découvrir la France, ainsi de suite. Donc on a essayé de venir travailler ensemble, de monter des projets, ainsi de suite. Et puis, de continuer notre vie de couple, quoi, en fait. Donc, au début, c'était galère parce qu'elle voulait vraiment pas se marier. Donc, c'était pas dans son idée de se marier. Donc, elle voulait qu'on vienne bosser, qu'il y ait ce schéma qui se partage entre nous. Si on a envie de venir en France, on est en France, on travaille au Mali ou soit ailleurs. Donc, pour la première truc, on a décidé d'aller à Prague.
D'accord.
Donc, on a été invité là-bas sur un spectacle, un festival. Donc, on a fait les demandes de visa. C'est à la veille du départ qu'on m'a refusé le visa. Donc, on était obligé de laisser tomber ce projet parce que j'ai pas eu le visa. C'était compliqué. Donc après, on a voulu redémarrer. Donc je lui ai dit non, ça va, je viens en 2019 pour une tournée théâtrale là. On s'est vu, voilà. On s'est vu en France ici. On a profité un peu, mais pas beaucoup parce qu'on a fait que 2 semaines ensemble. Donc après, je suis rentré, mais il y a pas mal de discussions qui étaient là. La communication était gardée entre nous. Donc on ne voulait vraiment pas lâcher l'affaire, on voulait être ensemble, quoi. Notre amour qui était de plus en plus fort et tout, on a décidé de se marier pour casser cette barrière-là qui est entre nous et pour pouvoir faire la route. Si je veux venir un jour, soit si on veut qu'on se rencontre en France, on est là, personne ne peut nous empêcher. Donc si elle veut aussi venir au Mali, ainsi de suite, ou soit partout qu'on veut, on peut aller, voilà. Donc au final, au fur et à mesure, on se dit, bon, il faut qu'on soit ensemble, quoi.
D'accord. Et quand tu as demandé un visa pour venir te marier, là, c'était pas automatique non plus.
Non, là, il faut une attestation de mairie qui prouve que ouais, c'est vrai, vous allez vous marier. Donc, mais ça s'est fait 6 mois avant le mariage. Donc, l'ambassade est au courant 6 mois que tu vas te marier. Donc, la France aussi, là où tu vas te marier aussi, ils sont au courant. Donc, on a commencé à vraiment demander, à mettre l'annonce à l'ambassade du Mali. Donc, il y a une bonne annonce qui a été publiée là-bas pendant 15 jours, disant que j'allais me marier. Donc, et ils savaient tout ça. Moi, avec tout ça, c'était un peu compliqué avec Covid aussi. Donc, on a galéré, ils ne voulaient pas nous livrer le visa. Donc, il fallait que la mairie écrive un mail pour lui dire qu'il faut qu'il me donne un visa, en fait. Donc, la mairie les a écrits, bon, au fait, vous avez les publications, nous on a les publications, le mariage est tenu. Donc, on ne peut pas le faire sans l'absence du mari, au fait. Donc, il faut que vous lui donniez un visa pour qu'il puisse venir. Parce que ce n'était pas un truc imprévu, c'était prévu depuis longtemps. Donc, la mairie les a fait montrer ça, donc au final, j'ai eu le visa. Mais après avoir eu le visa aussi, ils se sont trompés de visa. Donc, arrivé à l'aéroport maintenant, on m'a dit non, tu ne peux pas découler avec cette visa parce que c'est un visa de tourisme. Donc, il te faut un visa qui prouve que, en cas de crise, tu peux rentrer en France.
C'était donc, compliqué parce que c'était le Covid ou de toute façon
c'est de toute compliqué. Façon, c'était compliqué de venir un Africain ou un Malien qui quitte son pays pour venir en France. C'est des tonnes de papiers il faut. Mm-hmm. Et des tonnes de preuves. Franchement, c'est vraiment difficile. Donc nous, on a tenté de mille manières. Côté financièrement, tu finances. Au final, tu n'as pas de visa, tu n'es pas remboursé. Donc c'est compliqué.
Et maintenant que vous êtes marié, ça te donne quel droit? C'est quoi? C'est un permis de séjour?
Oui, ça me donne droit à séjourner ici, permis de séjour, renouvelable chaque année. Ils m'ont donné d'abord un visa de 1 an, donc ça va s'expirer en janvier. Donc, mais on a demandé une carte de séjour. Donc, mais sur leur site, c'est dit, peut-être qu'ils vont nous donner une carte de séjour de 2 ans. Donc, dans 2 ans encore, on va redemander notre carte de séjour avec des signatures de clémence en disant que ouais, on est toujours ensemble parce qu'il ne peut pas donner immédiatement une nationalité en tant que de couple.
Ils ont peur de faux mariage.
C'est ça, ils ont peur de faux mariage. Il faut aussi que le mariage se tienne en fait, que ça dure longtemps en fait. Quoi. Donc, si ça parle de mariage, il faut que ça soit un truc vrai qui est là. Donc à chaque renouvelable du papier, il faut que la femme prouve que vous êtes vraiment ensemble, qu'on est vraiment ensemble, que tout va bien. C'est un peu compliqué quand même.
Et l'idée du spectacle qui raconte cette histoire, elle est venue comment?
Elle est venue après avoir se marié, on s'est assis, on s'est dit, mais putain, la façon dont on a galéré pour venir aujourd'hui, on pourrait vraiment faire un spectacle, quoi. Là, on s'est dit, mais oui, c'est vrai. Donc, on s'est dit, bon, ok, on écrit notre histoire, en fait. Donc, on a écrit chacun de son côté.
D'accord.
Donc, c'est qu'elle, elle vivait ici depuis qu'on s'est connus. La façon dont on s'est connus, comment elle est tombée vraiment un peu amoureuse de moi, ainsi de suite. Donc chacun écrit vraiment ce qu'il ressentait au fait, de son côté. Donc moi j'ai tout écrit de mon côté, elle aussi elle a tout écrit. En janvier quand je suis venu ici, bon, ça a duré un peu parce qu'on a commencé en juin. On a ouvert les deux écritures, on les a mixées ensemble pour faire une pièce de théâtre contre ensemble.
Quelques jours avant le début du festival,
Une fête a rassemblé toute l'équipe dans une villa. Les techniciens ont transformé la terrasse en une véritable piste de danse.
Moi, j'aimais beaucoup être à la régie.
La soirée fut bien arrosée. Je dansais. Je dansais avec tout le monde. Je dansais seule aussi. Je t'ai dit que je ne voulais embrasser personne.
Je t'ai répondu que moi non plus. Tu es célèbre ici. J'ai vu les hommes te draguer.
Les hommes?
Oui, j'ai vu 3 personnes prendre ton numéro.
Ah, tu me surveilles?
Non, quand tu es à la régie, tu vois tout ce qui se passe.
Ivre et fatigué, chacun est rentré chez soi.
Quand je me suis couché, je ne pensais qu'à ce moment de danse avec toi.
T'avais quelle image de la France avant de venir?
Aucune.
T'étais déjà venu pour ton travail?
Je suis déjà venu en 2019 pour le travail, pour une pièce de jazz. Au début, je m'attendais à pas mal de trucs parce que tout le monde dit oh, ouais, la France c'est beau, la France c'est comme ça. J'avais la curiosité. Il y a un moment, j'ai eu la curiosité de venir voir parce que tout le monde venait. Ouais, j'avais des amis qui voyageaient vers la France et tout le monde était content quoi, de retour. Donc, moi, mon idée aussi, c'était de venir visiter, voir un jour et puis retourner chez moi aussi. Donc, je l'ai fait une fois en 2019.
C'est pour accompagner un spectacle?
C'est pour accompagner un spectacle. J'étais régisseur général du spectacle.
T'es arrivé où en
France? Notre avion a descendu à Toulouse. Après, on est allé à Bordeaux, ainsi de suite, Périgueux, Bègles. Donc, on a un peu tourné quand même avec ces spectacles-là.
D'accord. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans le Diwa? Est-ce que Clémence habitait le Diwa à ce moment-là?
Non, elle ne connaissait pas du tout. Elle est sonographe à la base. Donc, vu qu'il y a eu l'histoire de Covid et tout qui s'est installé, c'était compliqué, les spectacles étaient fermés, les théâtres étaient fermés. Donc, je la connais, elle ne veut pas rester sur place. Donc, dans sa tête, elle voulait voir comment on fait du fromage depuis longtemps. Donc, elle s'est dit, c'est l'occasion maintenant de faire ça parce qu'elle ne sait pas quand est-ce que cette crise-là va finir. Donc, elle a entamé une formation en fromagerie. Donc, il fallait faire l'alternance et faire des pratiques. Donc, trouver des fermes avec où pratiquer aussi. Donc, elle a cherché. Elle a tombé ici, dans les Diwa. À Rekoubo, il y avait Julie Cheva qui cherchait des apprentis. Donc, elle a appelé, elle a tenté sa chance. C'était OK. Donc, elle est là. Donc, elle est venue une semaine avant moi. Dit bon Moussa, ouais, je suis tombé dans un coin, je ne sais pas si c'est peuplé ou c'est bien ou pas bien, mais en tout cas je suis là. Donc si tu me rejoins, on va être là, on verra la suite. Donc on est là, je suis venu une semaine après.
Tu te souviens des premières impressions que tu as eues en arrivant? Du coup, tu es arrivé l'hiver?
Je suis arrivé l'hiver, donc c'était ma première fois de voir la neige. Quand je suis arrivé le lendemain, je me réveille, il y avait la neige partout. À 6h du matin, j'étais là, ouf. Je suis sorti, j'ai ouvert la porte, j'ai commencé à toucher la neige, à les sentir, à les toucher, parce que j'avais jamais vu la neige. Donc je voyais ça à la télé et tout, ou les films, et ainsi de suite. Donc je me suis beaucoup amusé, seul. Donc, et toute la journée, je suis resté au froid avec la neige et tout. C'est cette impression que ça m'a impressionné parce que, ouais, c'était là, j'ai dit, bon, il faut profiter, quoi. Parce que je ne sais pas si la glace va peut-être disparaître, je ne sais pas, mais je profite, j'ai passé toute la journée à manipuler, à être avec la neige.
Et vous avez trouvé facilement un loger ici?
Oui, donc, mais c'est, franchement, c'est Clémence qui a fait le gros boulot, c'est elle qui a cherché ici son boulot. En plus, côté logement, c'est elle qui a vraiment tout fait. Donc moi, elle a eu la maison. Là, ils sont là où elle doit bosser. Après, voilà, elle m'a accueilli au fait, quoi. Elle m'a dit, bon, tout est là, prêt pour toi, quoi.
Elle est encore en formation ou elle a terminé?
Elle a terminé sa formation en août. Donc, elle est salariée maintenant.
D'accord. Et c'est pour ça que vous avez décidé de rester ici?
Ouais. Du coup, nous, on voulait, au début, on voulait partir à la fin de sa formation au Mali. Donc après, voilà, je voulais, vu que j'aime pas aussi m'asseoir, j'ai commencé à faire une formation ici en France de maraîchage.
D'accord.
Ouais, quand à mon arrivée immédiatement, parce que j'ai postulé même en étant au Mali avant de venir. Donc j'ai eu
au CFPPA,
donc j'ai eu l'entretien. Je suis venu vendredi, lundi c'était mon entretien. Donc j'ai fait ma formation en maraîchage. Après j'ai travaillé un peu dans la vigne. Et puis j'avais une autre formation qui était prévue depuis 2019 à Nantes. Donc je l'ai fait aussi. Donc après ça, j'ai travaillé
à donc postulaire. Plus technique là.
Ouais, c'est ça. Plus technique, son, lumière, voilà. Donc après cette formation, j'ai postulé à l'herbier. Donc en attendant, parce que je ne voulais pas m'asseoir sur place, quoi.
Et le maraîchage, c'est quelque chose que tu avais déjà pratiqué au Mali
ou... Au Mali, oui. Bon, pas du maraîchage, mais jardinage. Parce que au Mali, dans mon enfance, j'étais, voilà, vu que je disais à mon enfance, je n'avais pas tellement de souvenirs de Bamako. C'est juste aller à l'école, le week-end ou soit les vacances, je partais un peu dans la brousse, aider ma grand-mère dans son jardin.
Okay.
Et puis dans son champ aussi. Mais nous, voilà, on ne connaissait pas du nom maraîchage et tout. Parce que tout le monde a des parcelles pour cultiver, c'est mille, c'est riz pour l'année, quoi. Mm-hmm. Donc, des fois, je partais leur donner un coup de main, je ne savais rien. Donc, des fois aussi, je me rappelle un peu, je me donne la houe et tout, je coupe tout ce qui n'est pas à couper aussi. Donc, j'aimais bien ça parce qu'il y avait une bonne ambiance. Et puis, dans son jardin aussi, de fur et à mesure, j'ai commencé à un peu aimer. Après, je me dis aussi, à part mon boulot, si j'aimerais bien changer de métier, changer de vie, ou soit faire un autre truc à côté, pourquoi pas du maraîchage. Parce qu'au début, on ne savait pas si le moment dont on va s'installer ici, qu'est-ce que j'allais faire avant que le théâtre s'est rouvert et tout. Donc, on a regardé pas mal de trucs. Je me dis, mais je préfère faire du maraîchage ou soit travailler dans l'agriculture, quoi. Donc... Mmh. C'est pas facile parce que ici en ce moment au Mali, il y a pas mal de trucs. Les agricultures se font maintenant avec des produits chimiques, les pesticides et tout. Donc je me dis, bon, si je travaille un peu ici, j'ai fait une formation en ça, peut-être un jour je vais les amis, les collègues, même si ça part pas loin, mais mes entourages et tout, ils vont savoir qu'il faut pas utiliser ces produits-là.
Il n'y a pas du tout de prise de conscience de ça?
Ouais, il n'y en a pas parce que j'ai un ami qui est un peu dans la brousse. Des fois, il vient faire ses études au Mali. Des fois, s'il y a l'hiver ou soit s'il y a le moment d'aller cultiver, donc ils sont tous appelés à rentrer chez eux, aller aider, travailler, cultiver pour les récoltes qui se font pour toute l'année. Donc, même s'ils sont à l'école, ils sont obligés de laisser l'école, en fait. Mm-hmm. Donc, il y a un moment, il me dit, ouais, je ne pars plus au village parce que maintenant, il y a des produits, tu les fais, il n'y a pas besoin de plus de gens. Donc, lui, il était content de rester à Bamako parce qu'il y a des produits qui désherbent tout. Donc, lui, il était content. Au début, j'étais content aussi, mais arrivé ici à la formation et tout, je me suis rappelé de ça. J'ai dit, mais ouf. Donc, là, si lui, il était content, peut-être quelqu'un d'autre, ainsi de suite. Tout le monde va être content, ouais, on ne va pas appeler plein de monde. Donc, ils vont utiliser des produits au lieu des gens.
Quand tu dis la brousse, le village de ta grand-mère, c'est où exactement?
C'est à Selenke, c'est à 4 heures de Bamako. Donc si on dit la brousse, c'est un peu campagne, quoi. Donc il y a moins de monde, il y a moins de maisons, c'est vert, quoi. Donc il y a une famille là, après d'autres familles, il faut marcher 15 minutes pour aller dans l'autre cour. Donc tout l'alentour, c'est de forêt, quoi.
D'accord.
Ouais.
Et elle cultive des légumes aussi?
Oui.
Quoi comme légumes?
De courgettes, de concombres, tomates et ainsi de suite. Elle fait du mil, du maïs, du riz aussi.
Et elle travaille sans produit?
Ça, elle travaille sans... Bon, elle travaille sans produit. Elle fait tout seule. Donc, elle travaille au début, elle travaille juste le sol avec les tracteurs et tout, pas les retourner. Du coup, après, c'est elle qui fait tout. Des fois même, voilà, elle en a plus de légumes, soit de riz, et ainsi de suite. Elle nous envoie.
À Bamako.
D'accord.
Mais elle ne revend pas sur
non,
le
marché.
Sinon, elle, c'est pour non, elle.
Là-bas, c'est pour elle, c'est pour tout, c'est pour l'année prochaine, de ce qu'elle, elle va consommer.
D'accord.
Avec la famille.
Et tes parents, ils faisaient quelle activité à Bamako?
Moi, mon père était peintre.
D'accord.
Ouais. Du coup, il faisait ça avant que, voilà, il était peintre. Après, j'ai commencé à l'aider quand j'avais 7 ans. Donc, je l'ai aidé jusqu'à 18 ans, en fait. Donc, au final, j'ai dit non, c'est pas un truc à moi, c'est ton truc. Je voulais pas devenir comme... faire le métier comme lui l'a fait, en fait. J'étais passionné par l'art et par les artistes. Du coup, lui, il voulait que je sois peintre aussi comme lui. Au début, il voulait même pas que j'étudie, donc il voulait que je bosse, quoi. Je travaille avec lui et tout. Mais c'est ma mère qui s'est battue, dit non, moi, mon enfant, il va aller à l'école.
Oui, en plus, le seul garçon.
Ouais. surtout chez nous, les femmes, ils partent à l'école, mais ça s'arrête un peu, voilà. Dès qu'ils se marient, c'est fini, quoi. Donc, si elle vient de commencer l'école, et puis il y a quelqu'un qui l'a fiancée déjà, donc c'est son fiancé ou c'est son mari qui est écouté, si elle veut continuer ou pas.
Ça peut être à quel âge, ça?
De 18, 19, 20 ans, quoi.
Et tes sœurs, elles ont du coup pu faire des études quand même?
Ouais, il y a une de mes sœurs qui a vraiment pu avancer côté de l'école. Une de mes grandes sœurs. Donc après, mon autre petite sœur, la dernière, elle est toujours à l'école. Donc les autres sont mariés, donc ils ont laissé l'école.
Et ça veut dire qu'elles vont travailler ou qu'elles vont s'occuper essentiellement des enfants?
S'occuper des enfants ou s'occuper du mari dans la maison. Il y a des femmes qui travaillent, mais il n'y en a pas beaucoup quand même. Il n'y en a pas beaucoup. Les femmes qui ont arrivé à vraiment finir leurs études, donc qui peuvent dire non à leur mari, c'est eux qui arrivent à vraiment bosser. Donc, les femmes, franchement...
Oui, parce que quand tu n'es pas diplômée,
voilà.
C'est pas évident de trouver un travail.
C'est ça. Donc, tu restes à la maison, tu t'occupes de la maison, tu prépares la bouffe pour tout le monde, ainsi de suite, quoi. Donc, le mari, c'est lui qui travaille, qui s'occupe de toi aussi et les frères de la maison.
Et les femmes, elles ont envie que ça change aujourd'hui, ça ou...
Oui, si. Il y a des femmes qui ne veulent pas faire ça, malgré qu'ils n'ont pas pu avancer sur leur étude. Donc, ils veulent vendre des trucs ou soit créer un truc qui peut les aider côté économie aussi, qu'il ne faut pas toujours compter sur leur mari. Parce qu'il y en a pas mal maintenant, les hommes maintenant, des fois, il y a des difficultés. Donc, imagine si toute la cour, il n'y a qu'un seul homme qui finance pour la nourriture de tout le monde, de 20 personnes. Donc, les jours dont l'homme il est malade, ou soit il n'y a pas de boulot, tout le monde est chômage, en fait. Donc, du coup, les femmes, maintenant, ils arrivent à faire quelque chose à côté, à vendre, ou soit si ça va chez l'homme, elle demande à l'homme de lui donner des financements pour qu'elle puisse vendre des trucs ou soit faire des projets à côté. Donc, qu'il arrive un jour à les soutenir ou soit à aider la famille aussi. Mmh. Donc, en ce moment, il y a beaucoup plus ça. Mais avant, ce n'était pas ça.
Mais quand tu dis une cour familiale qui reposerait sur un seul homme,
ouais.
Du coup, 20 personnes, ça, c'est quoi ? C'est ses enfants
C'est genre moi, dans ma famille. Mm-hmm. Bon, actuellement, il n'y a plus mon père. Normalement, je suis le chef de famille. Donc, il y a les sœurs de mon père, il y a le neveu de mon père, ainsi de suite, qui vont se regrouper à la famille, en fait. Donc, il n'y a pas qu'une seule, genre, notre famille, c'est fini, non. Il y a les frères de mon père, ou soit le frère de ma mère, qui viennent s'installer à la maison.
Frères, du coup, du mari et de la femme, des deux côtés.
Des deux côtés, ça peut jouer des deux côtés. Okay. Parce que la femme peut dire aussi, ouais, moi, mon frère, ou soit ma soeur, elle n'a pas là où dormir, donc c'est obligatoire. Donc le mari va accepter que, voilà, ça vient, quoi. Donc la famille dans la cour, c'est la femme qui gère aussi. Donc tout ce qui est côté dortoir, dormir et tout. Donc la femme, si elle décide quelque chose de la cour, c'est ça. Donc l'homme peut décider, mais il y a certains trucs que la femme ne peut pas décider. Mais dans une cour, franchement, il y a des fois 20, 15 personnes qui sont là. Il y a une seule responsable de famille qui nourrit tout le monde. Les autres peuvent aider, mais... c'est pas obligatoire.
Et les femmes, elles se marient forcément si jeunes ? Il y a pas...
Ça dépend. Il y a des femmes qui n'arrivent même pas à trouver un homme. Ça dépend. Ouais. Ça dépend aussi des femmes qui ne veulent pas au début. Ouais, je ne veux pas me marier parce que je t'aime pas, des trucs comme ça. Donc, les temps, voilà. Maintenant, on dit, ouais, les femmes qui choisissent maintenant leur mari. Donc ça devient compliqué des fois pour eux, parce que et ce qu'elles veulent, peut-être ils ne sont pas disponibles ou soit ils ne sont pas prêts à être mariés, des trucs comme ça. Donc,
Parce qu'avant, c'était la famille qui choisissait.
Avant, c'était la famille qui choisissait. Donc ça, en ce moment, c'était vraiment chaud, galère pour tout le monde, parce qu'il y a eu pas mal de divorces après que ça arrive. Donc, du jour au lendemain, on dit « ouais ». Ma fille, demain, tu es mariée, donc dimanche prochain, c'est les cérémonies et tout, tu t'en vas chez ton mari. Ça s'est passé comme ça. Du coup, elle n'avait
c'était
jamais...
C'était des arrangements entre familles.
C'est entre familles. Du coup, la femme se retrouve, soit les deux personnes se retrouvent, ils ne se sont jamais vus, jamais connus. C'est le jour du mariage, ils vont se voir. Avant, c'était comme ça.
Et ça s'organisait comment au niveau des familles ?
C'est les chefs de famille qui se communiquaient. Non, pas communiquer exactement. Si le parent de l'homme voit une femme ou soit qui est là, il dit « Ah, bon, mon fils, il doit marier une femme. » De ne pas voir « Ah, lui, c'est mon ami de longue date ou soit c'est mon ami. » Donc, il ne peut rien me refuser. Je ne peux pas demander la main de sa fille pour mon fils. Donc, il appelle un griot. Le griot va chez la famille de la femme qui demande « Ah, donc il y a telle famille, chef de famille, le nom du chef de famille, donc il veut prendre la main de ta fille pour donner à son enfant, son fils. » Soit il dit oui, soit il dit non. Mais des fois, si tu dis « Bon, en général, c'est pas refusé, quoi. »
C'est difficile de refuser ?
Oui, avant c'était difficile de refuser. Sauf si il y a un cas, on peut les refuser parce que l'enfance aussi, dès que la fille elle est née, on peut l'attacher son pied. Elle est déjà fiancée depuis son naissance, en fait. Avant aussi, il y avait ça aussi qui fonctionnait beaucoup. Donc les deux enfants, depuis leur enfance, depuis leur un an même, ils se sont déjà mariés. On les a déjà mariés.
Ils le savent ?
Ils ne le savent pas. Donc c'est au fur et à mesure quand ils sont grandis maintenant, qu'ils connaissent, et maintenant ils commencent à connaître la vie, ils disent bon, « Ah, tu es marié à telle personne depuis ton enfance. » Voici, c'est ça qui est... J'attache aussi les pieds de la fille, au fait. Donc les gens, même s'ils se promènent dehors, les hommes qui voient disent « Ah, elle est déjà fiancée. »
C'est quoi?
C'est une corde.
Une corde qui est sur la cheville.
La cheville de la femme. Donc c'est directement qu'elle est déjà mariée. Ou soit voilà, son mari l'attend.
Et ça se pratique encore, ça?
Non. Ça, c'était avant.
D'accord. La génération de...
De mon grand-père.
De tes grands-parents.
Voilà. D'accord. Donc, à ce moment, donc, la femme, elle attend l'âge d'être femme pour aller chez son mari. Donc, il n'y avait pas de... En ce moment, il n'y avait pas... Parce qu'elle n'est pas arrivée. Elle est mineure qu'elle va chez son mari, non. Donc, on attendait vraiment à ce qu'elle soit femme pour aller chez son mari.
Donc, il y a une majorité.
Il y a une majorité, ouais. Ouais.
Qui était quel âge?
18 ans.
18 ans.
Des fois, 17. D'accord. Bon, pas, voilà, ça dépend, mais des fois, maximum. 17 même, c'est limite. Mm-hmm. C'est quand, franchement, là, côté mari, ils sont pressés. Donc, ils peuvent attendre avec les accords. Donc, tu la laisses le temps. Donc, le temps de s'habituer à la cour, à la famille de l'homme, donc à se comprendre et aussi à s'adapter entre eux. Donc, après, si elle est arrivée, genre un an et demi ou deux ans, donc ils peuvent commencer à faire des enfants.
Oh. Et du coup, aujourd'hui, c'est plus décidé à la naissance, mais par contre, tiens, ça peut encore être des mariages arrangés.
Si, ça peut encore être des mariages arrangés.
À l'adolescence?
À de l'adolescence, oui. Du coup, c'est maintenant, ils demandent à la femme, il y a telle personne, c'est notre ami, et il veut te prendre pour donner à leur fils.
Ah, ils demandent
Maintenant l'autorisation de la vie maintenant. D'accord. À la femme.
Okay. Et si elle dit non?
Si elle dit non, c'est pas obligatoire. Mais des fois, il y a des familles qui disent, bon, t'as pas le choix. Ça, il y a des ethnies aussi qui arrivent à faire ça. Mais maintenant, c'est peu au fait. Genre, au nord, c'est un peu obligé.
C'est quelle ethnie, du coup?
C'est le Peul. Le Peul, les Touaregs, soit les Tamashek.
Est-ce qu'il y a des mariages interethniques?
Les différentes ethniques.
Qui se marieraient un Bambara avec un Peul, c'est possible?
Oui, c'est possible. D'accord. C'est possible. Mais il y a certaines ethnies qui ne sont pas possibles.
Comme
les Dogons et les.
Qui se marient que entre eux?
Les Dogons qui se marient entre eux ou soit avec d'autres personnes. Mais les Dogons et les Bozo, ils ne se marient pas. Peut-être maintenant, oui, mais avant, il y avait ce genre de truc qu'il faut respecter, quoi.
D'accord.
Parce qu'après, si tu ne respectes pas, il y a des malheurs aussi, ensuite, qui peuvent se produire, mais sans que personne ne le souhaite, quoi. Mais...
Et toi, comment il a été perçu, ton mariage? Dans ta famille?
Dans ma famille, j'étais contente. Parce que... ils ont su que moi, avec Clémence, on s'aime bien. Elle était déjà venue à la famille. Donc, tout le monde le connaissait. Donc, après, ils ont dit bon. Et puis, c'est moi aussi, Il y a une part de l'homme aussi qui décide aussi, qui est là, quoi. Donc, à ce moment, j'étais chef de famille de ma maison, en fait.
D'accord. Donc, ton père était décédé.
Donc, ouais, mon père était décédé.
Déjà, et du coup...
Il n'y avait que ma mère... Donc, mes cousins ou des cousines qui étaient là, soit les amis ou soit le frère de mon père.
D'accord.
Et ils peuvent décider, mais le dernier mot revient toujours vers moi.
D'accord. Et du coup, toi, t'es toujours comme un peu chef de famille là-bas, ou le fait que tu sois parti? Est-ce que t'es toujours une responsabilité?
Si, à nouveau responsable, je suis toujours le responsable de la famille. Je suis toujours chef de famille. Donc, tout ce qui se passe dedans, s'il y a une embrouille, ils sont obligés de me tenir au courant avant de prendre certaines décisions. Ou soit si y a mes grandes sœurs, ou soit mes petites sœurs qui vont se marier, le dernier mot, c'est moi, je donne l'accord comme mon père, au fait.
D'accord. Donc, tu es très régulièrement en relation
avec eux, oui. S'il y a un problème directement, ils m'avisent. Ouais. Même s'il y a ma mère, le dernier mot, ça vient chez moi. Ma mère peut me conseiller. Mais c'est moi, je décide un truc que personne ne peut contredire.
Ah oui, donc c'est un lien fort là.
Ouais, ouais. C'est
ça. Et est-ce que financièrement, il y a un soutien que toi, tu es censé du coup aussi les soutenir financièrement?
Financièrement, si ça ne va pas, je suis obligé.
D'accord.
Je suis obligé, obligé à les nourrir en fait. Je suis obligé, si quelqu'un est malade, de le soigner. Même si c'est mon cousin, tant qu'il est dans la cour, il est sous mon responsabilité. Donc financièrement, je suis obligé.
Donc dans la cour de ta mère, il y a combien de personnes actuellement?
Donc on a 12.
D'accord.
Actuellement, il y a 12 personnes qui sont là-bas.
Et ta mère, comment elle s'en sort elle?
Du coup, avant, il y a quelques années, parce que depuis la mort de mon père, ça fait 6 ans maintenant. Donc on a réfléchi. Moi, parce que vu que je m'en sortais aussi côté de mon travail, je me dis, bon, je vais aider ma mère. Je l'ai aidé à ouvrir une boutique à la porte même. Donc on a rempli ça, donc elle vend à la porte. Donc ma petite sœur, elle a une boutique aussi qui tresse, elle tresse les femmes. Elle vend les habits aussi, donc ça marche bien. Donc au début, moi, je travaillais pour garder de l'argent pour eux, voilà, pour financer cette, quelque sorte, entreprise. Donc il y a des moments, si ça ne va pas chez moi, ils peuvent intervenir. Donc c'est cet accord-là qu'on a tenu ensemble. Donc des fois, je ne suis pas obligé, si ils peuvent gérer certains trucs, ils les gèrent sans m'aviser, ou soit ils peuvent m'aviser, mais en disant, j'ai géré ça. Donc, s'il y a des problèmes vraiment compliqués, donc j'interviens. Ça, je l'ai fait. C'est une création aussi que je suis en train de préparer. C'est une chanson pour ma maman. Donc, à chaque fois qu'elle me manque, je chante ça.